Une des images les plus courantes de la vie chrétienne est celle de la marche. Le chrétien, le disciple de Jésus, marche à la suite de son Sauveur et Seigneur. Si le chrétien marche, chemine par la foi, il le fait au gré des circonstances de sa vie. C'est ainsi que quand il vit des moments paisibles, sa marche de la foi est comparable à une marche au calme, dans la vallée, près d'un courant d'eau. C'est ainsi aussi que quand il vit des moments bousculés, sa marche de la foi est comparable à une marche pénible sur un sentier escarpé et rocailleux. Si le sentier escarpé et rocailleux est une image appropriée pour décrire les moments difficiles que nous traversons parfois, ce n'est pas la seule image possible. Il en existe une autre dont j'aimerais parler ce matin, à savoir le désert. Parfois, nos vies ressemblent à la traversée d'un désert. Parfois, nos circonstances de vie sont telles que nous avons le sentiment d'être en plein désert. Et la question qu'il faut se poser ici n'est pas « Allons-nous un jour ou pas traverser un désert ?» Tôt ou tard, chacun de nous y est confronté. La question qu'il faut se poser ici est celle-ci « Comment faire face au désert ?» quand il surgit dans ma vie au détour du chemin. Comment y vivre? Comment y survivre? Si par certains côtés le désert est un endroit magnifique, c'est aussi et surtout un endroit et de bien des manières hostile, dangereux, redoutable, où la vie est malmenée. Dans le désert, pas de repos, sous le soleil brûlant du jour ou dans le froid glacial de la nuit. Dans le désert, rien n'est hospitalier, tout est aride et sec et stérile. Dans le désert, nous souffrons vite de chaud ou de froid, et si la traversée dure un petit peu trop longtemps, nous connaissons alors la faim, la soif, peut-être aussi la solitude. Tout cela fait de l'image du désert une image pertinente pour décrire les temps difficiles de nos vies, les moments d'épreuve, de souffrance, de maladie, de deuil, de conflit, de solitude, de dépression, et j'en passe. Les moments où vivre devient difficile, les moments où la vie devient survie. Chers amis, est-ce que l'évocation de cette image du désert trouve un écho en vous ce matin? Avez-vous déjà été dans un désert moral, dans un désert spirituel? Vous êtes-vous déjà senti à sec, aride comme un désert? Peut-être est-ce le cas pour vous ce matin. Peut-être venez-vous tout juste de traverser un désert. Peut-être y serez-vous prochainement. Et la seule question qui compte vraiment ici est celle-ci: comment faire face à la traversée d'un des inévitables déserts que je croiserai tôt ou tard sur mon chemin, sur mon chemin de vie, sur mon chemin de foi? Et j'aimerais ce matin apporter quelques éléments de réponse à cette question en nous tournant vers le témoignage de quelqu'un qui s'est retrouvé dans le désert et qui s'y est même retrouvé à plusieurs reprises. Dans le désert physique, mais aussi dans le désert moral et spirituel. Cette personne, c'est le roi David. Et le témoignage que nous allons considérer ce matin se trouve dans le psaume 63. un psaume qui fait allusion au séjour de David dans le désert de Juda, un désert physique où David va connaître une grande sécheresse spirituelle. Et ce qui va être intéressant pour nous dans ce psaume, c'est de voir comment David va faire face au désert, comment il va cheminer dans ce désert, comment il va survivre à ce désert, et comment il va connaître la victoire dans le désert. Je vous invite à lire avec moi le psaume 63, soit vous le suivez dans votre Bible, soit vous pouvez le suivre à la projection. Et je vais lire ce matin dans la traduction en français courant. Psaume appartenant au recueil de David. Il fait allusion au séjour de David dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. J'ai soif de toi. Tout mon être soupire après toi comme une terre aride, desséchée, sans eau. Dans le temple, je t'ai cherché du regard pour voir ta puissance et ta présence glorieuse, car ta bonté vaut mieux que la vie. Je proclamerai ta louange toute ma vie, je te remercierai. En levant les mains vers toi, je dirai qui tu es. Je serai comblé comme rassasié des meilleurs morceaux. Je laisserai exploser ma joie. Je t'acclamerai. Quand je suis couché, je me souviens de toi. Je pense à toi pendant les heures de la nuit. Tu es venu à mon secours. À l'abri de tes ailes, je crie ma joie. Je suis attaché à toi de tout mon être. Ta main droite est mon soutien. Il y a des gens qui veulent ma mort, qu'ils aillent à un désastre soudain, qu'ils descendent au fond du monde des morts, qu'ils soient livrés à la mort violente, qu'ils deviennent la proie des chacals. Que le roi trouve en Dieu la source de sa joie. Quant à tous ceux qui font un serment en prenant Dieu à témoin, qu'ils puissent se féliciter, car les menteurs seront réduits au silence. Le titre de ce psaume nous dit, nous apprend que David est dans le désert de Juda. Au verset 12, nous comprenons que David est roi quand il écrit ce psaume. Il est roi et il est traqué. Verset 10, nous lisons qu'il y a des gens qui veulent sa mort. On cherche à détruire la vie du roi David. Le roi David a trouvé refuge à plusieurs reprises dans le désert. C'est paradoxal, mais c'est la réalité. Et il faut quand même se rappeler ici que les déserts du pays d'Israël ne sont pas le Sahara. C'est un autre type de désert. Il est possible que David ait écrit ce psaume alors que Saül le traquait. Il est également possible, et c'est ce que pensent la plupart des commentateurs, que David a écrit ce psaume lorsqu'Absalom s'est rebellé contre lui et qu'il a dû s'enfuir dans le désert. David a-t-il écrit ce psaume dans le désert ? L'a-t-il écrit après ? Nous ne le savons pas. Fuyait-il Saül ou Absalom ? Nous ne le savons pas. Par contre, ce que nous savons, c'est qu'il est roi, c'est qu'il est traqué, il est en fuite, et il se cache dans le désert. Que fait David dans le désert ? Comment vit-il dans le désert ? Comment survit-il ? Que pouvons-nous apprendre de ce psaume qui pourrait nous être utile quand nous traversons nos propres déserts? La première chose que nous remarquons, c'est que David cherche Dieu. L'environnement dans lequel il se trouve est aride. C'est le désert. Mais plus important encore, C'est son cœur qui, à ce moment-là, est lui aussi à sec, complètement à sec. Dans cet environnement hostile, David a certainement physiquement soif. Mais nous lisons qu'il a surtout soif de Dieu. Son être tout entier soupire après Dieu, son Dieu, comme une terre aride, desséchée, sans eau, tout en lui crie son besoin de Dieu. Verset 2, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, j'ai soif de toi, tout mon être soupire après toi, comme une terre aride, desséchée, sans eau. » Que fait David ? Il se tourne vers Dieu. Nous le voyons chercher Dieu. Nous le voyons confesser son besoin de Dieu. Quoi de plus normal, me direz-vous ? En êtes-vous si sûr ? La nature humaine marquée par le péché est fondamentalement, la nature humaine, c'est-à-dire la nôtre, marquée par le péché est fondamentalement et foncièrement indépendante de Dieu. Ainsi, notre réflexe premier dans l'adversité n'est pas de chercher Dieu, mais de chercher en nous le secours. Ce qui nous est naturel, c'est de chercher à sortir de nos déserts, de nos impasses, de nos difficultés, en comptant sur nos propres forces, en comptant sur notre propre sagesse, en comptant sur notre propre intelligence. Faire confiance à Dieu, ce n'est pas ce qui nous vient spontanément à l'esprit. Nous l'apprenons avec les années, avec l'expérience. Mais nous avons sans doute tous déjà fait ce constat où Dieu n'a pas été l'option première dans notre vie, mais plutôt la dernière. Combien de fois avons-nous fini par nous tourner vers Dieu ? Seulement parce que nous étions totalement dans l'impasse. Seulement parce que nous avions abattu toutes nos cartes. Seulement parce que nous étions à bout de ressources ou au bout du rouleau. Alors nous nous sommes tournés vers lui. Alors nous avons crié à lui. Alors nous avons cherché Dieu comme on cherche une roue de secours dans le coffre de sa voiture. Au début de ce psaume, nous voyons David chercher Dieu. Peut-être a-t-il rapidement cherché Dieu dans le désert. Peut-être lui a-t-il fallu un certain temps. Peut-être a-t-il d'abord cherché en lui-même des ressources. Nous ne le savons pas. Mais ce que nous savons, c'est qu'au moment où il écrit ce psaume, il nous rapporte ce témoignage. Et c'est là le plus important. David a cherché Dieu. David reconnaît son besoin de Dieu dans le désert. Il est honnête avec Dieu, il est honnête avec lui-même. Il ne prétend pas, ou plus, il cherche en Dieu son refuge. C'est le premier pas vers la victoire. La victoire dans le désert. La victoire même si je dois rester dans le désert. S'il y a une victoire qui correspond à la sortie du désert, il y en a une autre bien plus importante qui peut se vivre même en restant dans le désert. C'est celle qui commence par chercher Dieu. Dieu qui se laisse toujours trouver par celui qui le cherche sincèrement. Après avoir honnêtement dit son besoin de Dieu, et après s'être mis en recherche de Dieu, David va faire mémoire. Je ne sais pas s'il faut imaginer ici une chronologie quelconque de ces différentes étapes, ou si l'essentiel est qu'elles aient lieu, peu importe l'ordre. David se souvient. Il se souvient au verset 3 et 4 de la bonté de Dieu. Et puis il se souvient au verset 7 à 9 du secours de Dieu. Je relis ces quelques versets. Verset 3, « Dans le temple, je t'ai cherché du regard pour voir ta puissance et ta présence glorieuse, car ta bonté vaut mieux que la vie. » Verset 7, « Quand je me suis couché, je me souviens de toi. Je pense à toi pendant les heures de la nuit. Tu es venu à mon secours, à l'abri de tes ailes. Je crie ma joie. Je suis attaché à toi de tout mon être. Ta main droite est mon soutien. » David se souvient, et ce qui lui vient d'abord à l'esprit, ce sont les souvenirs de la présence de Dieu et de sa bonté. David se souvient des temps bénis de communion avec Dieu. Il se souvient de la présence de Dieu dans le temple. Il se souvient avoir cherché Dieu pour voir sa puissance, pour voir sa présence glorieuse, mais il se souvient surtout de la motivation qui était la sienne à ce moment-là. Et que dit-il au verset 4 ? « Je t'ai cherché, car ta bonté vaut mieux que la vie. » En commentant ces versets, Spurgeon a écrit « La vie confortable dans un palais avec la santé, avec les honneurs, avec la richesse, avec les plaisirs. Oui, mille de ces vies n'équivalent pas à la vie éternelle qui est dans le sourire de Dieu, dans la bonté de Dieu. La vie est précieuse, nous en sommes tous convaincus. Mais combien plus précieuse est la bonté de Dieu ? Je t'ai cherché, car ta bonté vaut mieux que la vie. » David se souvient dans le désert. David se souvient des temps bénis dans le temple à servir Dieu, à l'adorer, et se souvenir des jours heureux, se souvenir des jours bénis devient une force dans le désert. C'est encore Spurgeon, en commentant ce psaume, qui écrit « Notre vision dans la montagne », la montagne qui est le moment où nous nous approchons de Dieu, l'image, on monte sur la montagne. « Notre vision dans la montagne devrait être notre réconfort dans la vallée. » Et pour nous, on va remplacer vallée par le désert ce matin. « Notre vision dans la montagne devrait être notre réconfort dans le désert. » Il est précieux de mettre en réserve au fond de notre mémoire les jours de soleil en prévision des jours de pluie. Il est précieux et sage de stocker les souvenirs bénis pour faire face aux jours de dépression, de détresse, de doute, d'angoisse, de traversée du désert. Après s'être souvenu de la bonté de Dieu, David se souvient de son secours au verset 7 à 9. David a des insomnies. Il n'arrive pas à dormir, ça peut arriver. Sans doute est-il préoccupé. Mais plutôt que de broyer du noir, que fait David ? Il pense à Dieu pendant ses insomnies. Il se souvient. N'est-ce pas là la meilleure chose à faire quand nous n'arrivons pas ou plus à trouver le sommeil ? David se souvient du secours de Dieu. Tant de fois Dieu est venu à son secours, tant de fois Dieu l'a délivré du lion, de l'ours, de Goliath, des Philistins, de Saül. Dieu a été pour David, à de maintes reprises, son refuge, son abri, son secours, sa tour forte, son rempart, sa haute retraite, son rocher, son appui. Et maintenant, le souvenir du secours passé de Dieu devient le réconfort de David dans le présent, dans le désert. David se souvient. Il sait qu'en Dieu, il est à l'abri. À l'abri de ses ailes, dit-il au verset 8. Peut-être David fait-il ici allusion aux ailes des chérubins sur l'arche de l'Alliance, symbole de la présence de Dieu dans laquelle il se sent en sécurité, peut-être. Peut-être fait-il simplement allusion à cette image que l'on peut tous voir dans un poulailler, des poussins qui se réfugient et qui sont en sécurité sous les ailes de leur mère. Quoi qu'il en soit, David se sait à l'abri en Dieu. Il se sait à l'abri en Dieu et il dit au verset 9, « Je suis attaché à toi de tout mon être. » David est comme collé à Dieu. C'est pourquoi il se sait en sécurité. Et on pourrait presque l'entendre, alors qu'il y a des siècles et des siècles qui les séparent, on pourrait presque entendre ici ce que l'apôtre Paul dira un jour aux Romains, quand il leur écrira qu'il sait que rien ne peut séparer le croyant de son Dieu, de son amour manifesté en Jésus-Christ. David est attaché à Dieu, à l'abri de ses ailes. Rien ne pourra le séparer de Dieu, pas même le désert. Pas même le désert. Certainement que Dieu a déjà fait du bien à chacun de nous. Le souvenir de ses bienfaits, sans tomber dans une espèce de nostalgie qui nous tire en arrière et qui finalement nous empêche d'avancer, le souvenir des bontés de Dieu est comme une brise rafraîchissante dans le désert de nos difficultés. Quand Dieu a institué la Pâque en Égypte, il a donné l'ordre suivant. Ce jour sera pour vous un souvenir et vous le célébrerez avec une prescription perpétuelle dans chaque génération. Pourquoi Dieu a-t-il donné ce commandement ? Il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais nous pouvons au moins répondre parmi toutes les réponses possibles, parce que le souvenir des bontés de Dieu est une force véritable au jour de la détresse, au jour du désert. Le souvenir de la fidélité passée de Dieu nous rappelle que ses bontés ne sont pas épuisées. David s'est honnêtement tourné vers Dieu en lui faisant connaître son besoin de lui, en lui disant sa soif de Dieu. Il s'est aussi souvenu des bontés de Dieu, de sa fidélité. Et alors qu'il commence à se souvenir, il se met à louer Dieu. Je relis les versets 4 à 6. « Je proclamerai ta louange. Toute ma vie, je te remercierai. En levant les mains vers toi, je dirai qui tu es. Je serai comblé comme rassasié des meilleurs morceaux. Je laisserai exploser ma joie. Je t'acclamerai. » Le souvenir des temps bénis avec Dieu pousse David à la louange. Le souvenir de qui est Dieu pousse David à la louange. Mais attendez, il y a un truc qui ne va pas là. David loue, mais il est dans le désert. On en veut à sa vie, il est traqué, il est à sec. Dieu a permis le désert. Il ne le lui a pas épargné. Et pourtant, David loue Dieu. Et nous avons sans doute ici la description d'un des plus grands privilèges du chrétien, et du chrétien dans l'épreuve. Au-delà de ces circonstances, le chrétien peut regarder à Dieu et se réjouir en Dieu, quelles que soient les circonstances de sa vie. Il ne s'agit bien évidemment pas de faire l'autruche et de se convaincre que tout va bien quand tout va mal. Ce n'est pas de cela dont il est question. La vie chrétienne, ce n'est pas une espèce d'application de la méthode Coué. La vie chrétienne, ce n'est pas non plus vivre sur un petit nuage rose, complètement déconnecté de la réalité de la vie. La vie chrétienne se vit en gardant les pieds sur terre, même quand la terre est le sable du désert. Si le chrétien peut louer Dieu même dans les difficultés, c'est parce qu'il sait que la bonté de Dieu ne dépend pas des circonstances de sa vie. Dieu est le même dans le désert que sur la montagne ou que près des courants d'eau. La bonté de Dieu pour nous est la même, quelles que soient nos circonstances. Dieu n'est pas seulement bon quand ça va bien pour nous. Sinon, on a une espèce de difficulté, hein, parce que quand ça va bien pour moi, ça ne va pas forcément bien pour mon frère, pour ma sœur. Alors soit Dieu est bon, soit il ne l'est pas. Si sa bonté est attachée à nos circonstances, nous avons un problème insoluble. Dieu est toujours bon. Et c'est ici que l'exhortation de l'apôtre Paul aux Philippiens prend tout son sens. Quand il écrit au chapitre 4, verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Comment est-il possible de toujours se réjouir alors qu'il y a tant d'épreuves, tant de souffrances dans la vie, tant de déserts arides à traverser? Nous ne pouvons pas toujours nous réjouir dans nos circonstances ou de nos circonstances. Et d'ailleurs, Dieu ne nous le demande pas. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Il y a des multitudes, une multitude de temps dans la vie et il faut respecter cela. Il y a des joies et il y a aussi des malheurs. Nos circonstances peuvent être difficiles et susciter en nous de la souffrance. Mais la bonté de Dieu, quelles que soient nos circonstances, peut susciter dans le cœur du croyant la louange. Nous pouvons toujours nous réjouir en Dieu, même dans le désert, parce que Dieu reste Dieu. Il est et reste notre Dieu, le Dieu de notre salut, le Dieu de notre espérance, le Dieu qui nous aime toujours, le Dieu qui nous pardonne toujours, le Dieu qui chemine toujours à nos côtés, même dans le désert. Ainsi, nous pouvons toujours nous réjouir en Dieu, parce que même dans le désert, Dieu nous offre sa paix, sa joie, son pardon, son amour, sa présence, son réconfort. Oui, même dans le désert, les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. C'est pourquoi nous pouvons louer Dieu même dans nos déserts. C'est un exercice difficile, j'en conviens. Mais quelle force que la louange dans le désert. Quelle force que la confiance dans le désert. À écouter David louer Dieu, on en oublierait presque qu'il est dans le désert. On en oublierait presque que ses circonstances sont difficiles, défavorables. On en oublierait presque que certaines personnes en veulent à sa vie. Mais à la perspective de Dieu, à sa lumière, tout change. Et petit à petit, David regagne confiance en Dieu. Peut-être que la victoire dans le désert passe par la louange, passe par la compréhension que Dieu ne change pas quand nos circonstances changent, passe par une juste compréhension de Dieu, passe aussi par une juste compréhension des épreuves qu'il permet dans notre vie parfois, jusqu'au jour où il fera toute chose nouvelle. Notre traversée du désert ne s'achèvera sans doute pas parce que nous avons loué Dieu, parce que nous louons Dieu, parce que nous nous sommes souvenus de ses bontés, parce que nous avons crié à lui. Ça, c'est une compréhension erronée de la vie chrétienne. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mais notre âme aura remporté la victoire si nous nous tournons vers Dieu dans le désert. Parce que je parle d'âme ici, parce que c'est bien l'âme qui est l'enjeu de ce psaume. Et malheureusement, la traduction en français courant que j'ai choisie ce matin ne le rend pas. Alors, je reprends les versets où ce mot apparaît dans l'hébreu et traduit dans la version Louis II, et voilà ces versets où il figure. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon âme à l'intérieur. » Mon âme sera rassasiée comme de graisse et de moelle. Mon âme est attachée à toi. C'est bien de notre âme dont il s'agit ici. Et même dans le désert, Dieu peut et Dieu veut rassasier, combler, satisfaire notre âme. C'est vraiment cela, la victoire dans le désert. David est encore dans le désert. Mais il a déjà remporté la victoire, celle de son âme, celle de son cœur, celle de la confiance retrouvée en Dieu. Et ainsi David termine son psaume avec des paroles fortes, des paroles imprécatoires. Je ne vais pas rentrer dans le détail cette fois-ci, mais par lesquelles il va traduire cette confiance retrouvée en Dieu. Je relis les versets, les derniers versets du psaume. Il y a des gens qui veulent ma mort, qu'ils aillent à un désastre soudain, qu'ils descendent au fond du monde des morts, qu'ils soient livrés à la mort violente, qu'ils deviennent la proie des chacals, que le roi trouve en Dieu la source de sa joie. Quant à tous ceux qui font un serment en prenant Dieu à témoin, qu'ils puissent se féliciter, car les menteurs seront réduits au silence. David a retrouvé confiance en Dieu. Il a retrouvé la joie en Dieu. Et ainsi, il peut relever la tête. Et trop souvent, je crois que nous associons la victoire au désert à la sortie du désert. Mais avant d'être cela, et heureusement que parfois Dieu permet la sortie du désert, la véritable victoire dans le désert, c'est la confiance trouvée ou retrouvée en Dieu. Chers amis, comment ferons-nous face à notre prochaine traversée d'un désert? David, dans ce psaume 63, nous laisse un exemple à suivre. Le suivrons-nous? Que Dieu nous aide à toujours choisir la bonne part. Il veut être non seulement le Dieu de nos étés, mais aussi le Dieu de nos hivers. Il veut nous rassasier, nous désaltérer, non seulement quand nous sommes près des courants d'eau, mais aussi quand nous sommes dans les lieux arides et secs. Il veut restaurer notre âme, non seulement quand nous sommes dans de verts pâturages, mais aussi quand nous sommes dans le désert. Il est notre Dieu où que nous soyons. Ses bontés pour nous sont nouvelles chaque matin, où que nous soyons. Nous pouvons toujours marcher en lui faisant confiance, où que nous soyons, même dans le désert. Amen. Je vous invite à prolonger encore quelques instants avec un moment de silence. Nous avons parlé de louer Dieu dans le désert, même dans le désert, parce que sa bonté ne dépend pas des circonstances. Et je vous invite maintenant à chanter un chant, peut-être comme la réponse à ce que nous venons d'entendre, et aussi comme une manière de nous préparer au repas du Seigneur que nous allons partager dans quelques instants. Et après le chant, j'invite celles et ceux qui ont mis leur confiance en l'œuvre de Jésus-Christ à rester debout et à partager le pain et le vin qui circuleront dans les rangs. Bénis l'Éternel, mon âme, sa fidélité ne dépend pas des circonstances. Levons-nous.